Et on dira que si personne se manifeste, cela signifie que le son il n'y a pas de problème de son. Taïb. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد طيب Donc aujourd'hui, on va, inshallah ta'ala, commencer un nouveau cours sur notre matière, le comportement. On a déjà procédé à une introduction, déjà une. Donc on a expliqué que dans les différentes matières, dans cette deuxième classe, en début de la recherche de la science, en tant que débutant, on a expliqué que avant d'entrer dans les cours, dans le vif du sujet, avant d'entrer dans les cours, dans le vif du sujet, on avait expliqué qu'on faisait quelques introductions, une introduction, mais qui se fait en plusieurs fois. Une introduction sur chaque matière, une introduction dans le sens vraiment faire prendre conscience les élèves de la matière. Alors des sciences en général, hein, et de la matière que vous allez étudier à l'institut. Dans un premier temps, le tawhid, le comportement et le fiqh, pardon, et le fiqh, la jurisprudence des adorations. Dans un premier temps, et on a dit que dans quelques temps, inshallah ta'ala, on ouvrira toutes les matières, inshallah ta'ala. C'est-à-dire, on ajoutera les quatre autres matières scientifiques présentes à l'institut. Mais dans un premier temps, on se réduit à ces trois matières, inshallah ta'ala. Donc aujourd'hui, notre matière, notre sujet, le comportement. Alors, le comportement. Le comportement, quelle matière? Quelle matière? Le comportement. Pour vous dire, au risque d'étonner ceux qui n'ont pas encore pris conscience de cela, la communauté, c'est une catastrophe. Il faut le savoir, hein. C'est pas une invention, c'est pas du dénigrement, c'est pas quelque chose de, comme on dit, du rouleau de l'excès. La communauté, c'est la catastrophe, il faut le dire. Celui qui veut les preuves que la situation de la communauté aujourd'hui, la communauté est en crise. Celui qui veut l'argumentation, et c'est tout à fait normal, et c'est un droit des étudiants, toujours, de demander l'argumentation. En fait, dans la législation, le savant, L'étudiant, l'enseignant. Il ne donne pas l'argumentation dans l'absolu parce qu'il se dit tantôt certaines personnes ne sont pas censées comprendre cette argumentation, donc il n'y a pas lieu d'argumenter. Mais pour ceux qui sont capables de comprendre l'argumentation et qui demandent l'argumentation, pour le savant ou l'étudiant ou autre, c'est une obligation de lui donner. Alors c'est pour ça que vous pouvez poser des questions, ça peut vous arriver, vous pouvez poser des questions à un savant, un étudiant, et il va vous répondre oui, t'as le droit, non, c'est interdit, il va pas vous argumenter. Parce qu'il se dit peut-être que il cherche juste le jugement sans l'argumentation, peut-être que l'argumentation, il ne va pas la comprendre. Donc, dans un premier temps, il ne donne pas l'argumentation. Mais il faut savoir que si vous la demandez, c'est une obligation pour nous de vous la donner. Vous constaterez que nous, à l'Institut, en général, on donne l'argumentation. L'argumentation, c'est-à-dire les preuves, hein, les preuves. Alors, conclusion ici concernant la communauté et l'état de la communauté. Quelle est la preuve de l'état de crise de la communauté? Tout d'abord, pour arriver à un jugement, il faut connaître ce qu'on appelle Al-waqi'a. Al-waqi'a, c'est la situation. Avant de porter un jugement, on doit connaître la situation de la chose. Pour porter un jugement sur la communauté, il faut connaître sa situation. Aujourd'hui, quelle est la situation de la communauté? On voit que le plus grand des péchés, le plus grand des interdits, le polythéisme, on voit bien qu'il est propagé à grande échelle dans la communauté. Il y a beaucoup de pays où ils font où c'est le polythéisme, c'est normal. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous faites une analyse, vous constaterez qu'aujourd'hui, la plupart des pays musulmans où ils ont été attaqués par les pays mécréants, ou alors ils sont, comment dirais-je, comme contrôlés, ils sont inférieurs. Personne ne va dénier cela. Ce qui signifie que les musulmans, aujourd'hui, ils n'ont pas le dessus. Ils ne sont pas ni en position de force, ni quoi que ce soit. Ils sont faibles, ils sont... Naham. Ce sont les koufars qui dominent le monde. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Puisque les savants disent, toutefois, que la communauté, elle désobéit à Allah. Toutefois, que la communauté... Elle se divise. Ça, c'est Cheikh Al-Fawzan dans son explication du livre de l'unicité, Kitab Tawhid, qui explique ça. Il dit, toutes les fois qu'ils ont dévié, qu'ils désobéissent à Allah, etc., Allah, subhanahu wa ta'ala, le sens, hein, en arabe, on dit, sallat Allahu alayhim al-kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que les kuffars soient supérieurs, il leur tombe dessus. Dû à la faiblesse de la communauté, à l'abandon de la communauté, de la religion, également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là c'est les paroles du prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit dans un hadith, La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Vous n'aurez pas la puissance, Allah ne vous donnera pas la puissance jusqu'à ce que vous retourniez à votre religion. Donc il n'est pas difficile pour chacun d'entre nous de faire le constat de l'état de la communauté. C'est pas difficile hein, aujourd'hui. On va entrer plus dans le vif du sujet. Vous inquiétez pas, c'est un cours de comportement. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver au comportement. Ce qu'on explique, c'est directement lié au comportement, justement. Au-delà de la communauté, en général, il y a les gens de la sunna. Au-delà de la communauté, en général, vous avez, comme vous le savez, les gens de la sunna. Malheureusement, aujourd'hui, même chez les gens de la sunna, c'est la crise. C'est pas un plaisir de le dire, hein. Attention. Ce n'est pas un plaisir de le dire. Et nous, on peut témoigner qu'il y a 15 ans, 20 ans, même, on va dire, 6, 7 ans de ça un peu en avant, c'était l'harmonie. C'était l'harmonie. On ne dit pas qu'il n'y avait pas de soucis, mais c'est une famille qui ne lave pas son linge sale en public, comme toutes les familles. On se comprend. Mais là, même chez les gens de la Sunna, c'est la crise. Les gens de la Sunna se détestent les uns les autres. Se jalousent les uns les autres, se dénigrent les uns les autres, se mettent en garde les uns les autres. Ça, c'est pas l'islam. Donc il y a une crise générale comme ça. Il y a une crise générale. Et une des causes principale, et là on y arrive, hein. Une des causes principales de cette crise, c'est d'avoir délaissé le comportement de l'islam. Alors, on a dit une des causes principales, parce que ce n'est pas la seule cause, il y a le tawhid aussi. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, essayez d'analyser ce verset. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, Wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous, accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Les savants ont dit, le câble d'Allah, c'est l'islam. C'est le kitab wa sunna, le Coran et la sunna. C'est le tawhid. Accrochez-vous à ça tous ensemble. Et ne vous divisez pas. On a fait le contraire, on a désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. On a les gens de Ahl Sunnati wal Jamaa, ils essayent de pratiquer à la lettre le Coran, la Sunna, le vrai Tawhid. On a plein de gens, ils se sont inventés des nouvelles croyances, des nouvelles sunnah, sunan. Il y a des gens, ils ont fait carrément une nouvelle religion. Maintenant, au sein des gens de la sunnah, ça commence pareil à faire des groupes, à s'égarer, à se dénigrer. Donc on a désobéi à Allah Ta'ala lorsqu'il dit ne vous divisez pas. Et on a désobéi à Allah Ta'ala lorsqu'il dit accrochez-vous tous ensemble au tawhid, à l'islam, à la sunnah. Donc à partir de tout ce qu'on vient de vous dire, est-ce qu'on peut dire que la communauté, tout se passe bien, c'est bien, continuez comme ça? On vous a donné un signe, hein. À partir du moment où les kofars, avec une aise, une facilité, ils se réveillent un matin et ils disent, tiens, on va attaquer tel pays, tiens, on va attaquer. À partir de ce moment-là, dites-vous, ça veut dire qu'on n'a pas la izza. On n'a pas le secours, on a d'Allah, on n'a pas la izza, on n'a pas, on est rabaissé par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on a délaissé la religion. Et une des causes principales, c'est le comportement. C'est le comportement de la religion. Alors ne vous inquiétez pas, peut-être on vous mentionne pas ces choses-là. On ne vous mentionne pas ces choses-là pour vous décourager, pour vous dégoûter, pour vous... Non, le découragement, le fait de désespérer comme ça vient du shaitan. Il faut le savoir, faut jamais désespérer. De la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, faut pas, comme certaines personnes, c'est... Alors c'est pas... Ça peut être d'un certain côté tout à leur honneur, ils sont tellement sensibles que ils dépriment avec tout ça. Non. En réalité, le remède, et on a expliqué ça lors de l'ouverture de l'institut, il y a plusieurs mois, on a expliqué aux élèves de l'institut, écoutez, nous, on va pas regarder tout ça. On va s'en servir de tout ce qui se passe, des mauvais comportements, des égarements, de ceux qui se détournent de la religion, veulent faire une nouvelle religion, etc. Tout ce qui se passe dans la communauté, nous, on va pas focaliser sur ça. Nous, on va faire comme nous a recommandé notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est d'œuvrer, d'avancer, parce que si toi, à ton niveau, en tant qu'individu musulman, toi, tout seul, individuellement, si tu es capable de pratiquer le vrai islam, de propager le vrai comportement, si on fait ça à titre individuel, chacun de nous, eh ben on va commencer à changer les choses. C'est pas grave, même si c'est à petite échelle. Tu vas commencer chez toi, tu vas commencer avec tes voisins, ensuite plus loin, etc., etc. C'est ça le but qu'on veut atteindre. C'est ce but-là qu'on veut atteindre à l'Institut At-Tawhid. Et c'est pour ça qu'on a mis une règle en place. Une règle en place, et les élèves, surtout les anciens, ils connaissent cette règle. Cette règle, c'est le comportement change les comportements. Plus particulièrement, le bon comportement change les comportements. Si toi, à ton niveau, tu vas montrer, pas par ostentation, mais par pratique et amour de la religion, tu vas montrer le bon comportement autour de toi. Par exemple, je vais vous donner un exemple dans mon cas à moi. Il y a une grande, grande, grande majorité des gens de la Sunna où j'habite qui ont un très mauvais, bon, qui se disent gens de la Sunna, mais en réalité, ils ne le sont pas. Mais ils s'habillent comme les gens de la Sunna. Sur la bouche, ils ont les ulama des gens de la sunna, donc les awam ne font pas la différence. Les awam ne font pas la différence. La plupart, ils ont un comportement qui fait fuir de l'islam. Donc moi, étant donné, quand je suis arrivé dans ce quartier, je ne comprenais pas, les gens ne me passent pas le salam, des fois, ça regarde de travers. J'ai senti une certaine animosité où, par la grâce d'Allah, par la grâce d'Allah, dans mon quartier, ma rue, j'ai réussi, par la grâce d'Allah, à changer cette image, juste à mon niveau, à moi. Comment? En pratiquant le vrai comportement. Et les gens comprennent immédiatement, ils diront, lui, il n'est pas comme les autres. Et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Je vais vous donner un autre exemple. Le musulman à la base. Le musulman à la base. Il a ce comportement. Il a cette noblesse en lui. Tout musulman a ce comportement. Il a cette noblesse en lui. Du moins la plupart, pas tous. Ils ont cette noblesse, ce ikram, cette générosité. Mais aujourd'hui, on vit dans un contexte où il faut la leur déclencher. J'explique. Moi, je suis dans une ville à 99% de musulmans. Je suis dans une rue où j'habite, un quartier 99% de musulmans. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pratique. Il n'y a aucune pratique. Mais le musulman lui-même, comme on vous a dit, il a ça dans son fond, il a ces choses-là, il les connaît, il sait ce que c'est que l'islam. Faut le déclencher, c'est tout. Donc que ce soit au niveau du comportement, il faut les déclencher. Que ce soit au niveau de la générosité, il faut les déclencher. J'explique. Au niveau du comportement, au moment où toi tu vas faire le comportement avec eux, comme par exemple, personne dit salam, toi dis-leur le salam. Personne ne sourit, toi souris-leur. Et tu vas voir que ça va déclencher quelque chose chez eux. Et eux, à la suite, ils te souriront, ils te diront salam. Pour la générosité, c'est la même chose. Tu vois qu'il n'y a personne qui pratique, eh ben toi fais-le. Quand il y a une occasion, va frapper. Offre-leur quelque chose. Alors on vous parle en termes de pratique, hein, c'est pas j'ai entendu, on m'a dit. En termes de pratique, ça marche. Alors attention, ça ne va pas marcher avec tous. Il y en a, ils ont vraiment atteint le seuil de Wallahul Musta'an. Wallah al-Musta'an, on ressemble aux mécréants. Wallah al-Musta'an, chacun pour soi, chacun chez soi. Et à ce propos, j'ai un récit. Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, il rapporte un récit. Il nous rapporte un récit. Il dit un jour, il y a une personne qui est venue me parler et il dit. Cette personne me dit, voilà, j'habite dans un quartier musulman et l'islam dont vous parlez, il est inexistant. Vous savez bien que Cheikh Abdelrazak al-Badr, c'est le vrai islam, la vraie sunna, le vrai comportement, etc. Dans les cours, etc. C'est ça qu'il propage. Et ce personnage, il est venu dire, l'islam que vous propagez, tout ça, moi j'habite dans un quartier musulman, il est inexistant cet islam. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, il lui a répondu, il lui a dit, de quelle religion êtes-vous? La personne de lui dire, je suis chrétien. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, il lui a dit, est-ce que dans votre religion, vous avez des gens différentes catégories de personnes, des gens qui alors vous avez ceux qui pratiquent à fond, vous avez ceux qui sont laxistes et ceux qui ne pratiquent pas du tout. Il a répondu oui. Cheikh Abdelazak al-Badr, il lui a dit, dans notre religion, à nous, c'est la même chose. Donc en conclusion, n'attends pas après les autres, sinon tu vas attendre longtemps. Comme le dit également Cheikh Abdelrazak al-Badr, c'est une faïda pour vous au passage. Hein. Comme il dit, si tu attends les remerciements des gens, tu vas attendre longtemps. Il dit ça dans un cours. Si tu attends le remerciement des gens, tu vas attendre longtemps. N'attends pas après les gens. Toi, à titre individuel, pratique. Cheikh Abdelrazak al-Badr, dans un autre cours, il dit. Ne regarde pas ce qu'il y a autour, les gens, est-ce qu'ils pratiquent, ils ne pratiquent pas, toi, pratique. Ce qui compte, c'est toi, ton paradis, comment ça va se passer dans ta tombe. Pratique, ne regarde pas autour de toi, parce que tout va être mis en place, il y a un stratagème qui est mis en place, comment dire, un effet de masse pour tomber dans une sorte de léthargie. Dans la communauté, il y a une sorte d'effet de masse pour tomber dans la léthargie. Alors, très peu sont épargnés. Très peu en sont épargnés. On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui ont un bon comportement, il n'y a pas des gens qui pratiquent, on ne dit pas ça. Mais quand vous regardez en termes généraux, ça commence à se faire rare. Ça commence à se faire rare. Et si vous voulez faire une sorte de bilan, vous pouvez faire une sorte de sondage vous-même, une sorte de bilan en posant les questions aux frères et aux sœurs. Que penses-tu de la pratique au niveau du comportement des frères, des sœurs, de ceci, de cela? Tu fais un petit sondage, et tu verras. Hein. Moi, je peux vous dire. Hein. Alors attention, on n'est pas en train de dénigrer. On a dit qu'on va, pour progresser, il faut se servir des erreurs. Et en général, vous verrez que chacun vous dira oui, dans la pratique, c'est pas tout le monde. Hein. La majorité ne pratique pas. Taïb. Donc on arrive à ce constat. Pourquoi on vous a parlé dans un premier temps du constat de la communauté? Pour vous faire prendre conscience que le constat très alarmant et très grave de la communauté, il est dû au comportement. Alors, à partir de ça, on va vous transmettre un jugement et une parole importante. Quand on se met en tête tout ce qu'on vient d'expliquer, la communauté qui est dans un état grave, etc., et que un des points facteurs de cette dégradation, de cette crise, de cette catastrophe, c'est le comportement. On prend directement conscience de l'importance alors d'étudier le comportement et de le mettre en pratique. Voilà pourquoi je vous ai dit tout ça. C'est pour arriver à la conclusion que lorsqu'on prend conscience de tout ça, que le comportement est abandonné, qu'on fait fuir les gens de l'islam, il y a des savants qui disent, et franchement ça fait mal au cœur, il y a une parole, retenez-la, hein, retenez-la cette parole, il y a des savants qui disent, Wallah, cette parole, elle est grave. Ils disent, le comportement qui faisait entrer jadis les gens dans l'islam est devenu la chose qui aujourd'hui fait fuir les gens de l'islam. On va en faire une image, Inch'Allah ta'ala. On demande à l'admin, barakallahu fix, cette parole, on va en faire une image, Inch'Allah ta'ala. Je répète, le comportement qui était jadis une cause pour faire entrer les gens en islam est devenu aujourd'hui une cause qui fait fuir les gens de l'islam. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que tout le monde a bien compris. Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il se manifeste et on lui expliquera la signification de cette parole. On constatera donc que, à l'époque des salafs, des tabi'i-tabi'in, des grands imams et autres, vous croyez que une des causes qui a fait que l'islam s'est propagé, une des causes, c'est le comportement. C'est le bon comportement. Donc ce comportement, à l'époque, il était un facteur, une cause, une énorme cause pour faire entrer les gens en islam. Pour faire entrer les gens en islam. Ce comportement, aujourd'hui, il est devenu une cause qui fait fuir les gens de l'islam. Avec le mauvais comportement des gens, etc. Alors on m'a demandé de répéter. Le comportement qui était jadis ou antérieurement, comme vous voulez, hein, qui était jadis antérieurement la cause d'entrée des gens en islam est devenu aujourd'hui, la cause qui les fait faire fuir l'islam, qui fait fuir les gens de l'islam. Wallahu al-musta'an. Donc à partir de ce moment, on prend conscience, comme vous le savez ici dans ces introductions, le but, c'est pour chaque matière de vous faire prendre conscience de l'importance d'étudier cette matière. Sachez que le comportement, il n'est pas énormément enseigné, et ça, c'est une erreur. Si vous préférez, chez les savants, il est enseigné. C'est la première chose. C'est la première chose. Avant la science, on apprend le comportement chez les gens de la Sunna. Mais ça, c'est chez les savants. Mais dans les instituts, dans les mosquées, dans la jamaa, dans la communauté, est-ce que les gens apprennent le comportement? Si aujourd'hui, c'est une phrase rhétorique, hein, est-ce que les gens apprennent le comportement? C'est une phrase rhétorique. Aujourd'hui, vous pourrez constater que chacun, il vient avec son désordre. Pourquoi c'est le désordre dans la communauté? Parce que chacun vient avec son comportement, son propre comportement, sa propre façon de voir les choses. Est-ce qu'on va chez le boulanger et qu'on débat avec lui sur son pain? Vous devriez pas faire le pain comme ça parce que aujourd'hui, les gens débattent avec les savants, les étudiants. Est-ce qu'on débat avec le médecin? Non, c'est pas ces médicaments que vous devez me donner normalement. La communauté n'est pas éduquée. Voilà pourquoi les grands savants et autres, ils ont focalisé la da'wa sur ce qu'il y a de plus important. Le tawhid, le comportement, le firqa. Pour que on ait une communauté qui se soigne, qui s'éduque et qui ne va pas s'enfoncer dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Voilà pourquoi on dit, le prophète a dit, l'islam est venu étranger, repartira étranger. Taïb. Alors, si on veut connaître quelle est l'importance du comportement et sa place, son rang en islam, cela peut être exposé de plusieurs manières. La première façon, c'est que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, le prophète, sallallahu alayhi wa salam, en a fait un des buts pour lequel il a été envoyé. Je répète, nous répétons, par rapport à l'importance du comportement en islam, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il en a fait un des buts pour lequel il a été envoyé. Le comportement a fait Le prophète, pardon, Ali salatu wassalam, a fait d'un de ses buts pour lesquels il a été envoyé le comportement. Et cela a été authentifié dans sa propre parole, dans la parole du prophète, Ali salatu wassalam, lorsqu'il dit Innama bu'istu li utammima makarimul akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter, parachever les comportements, les nobles caractères. Le prophète, il te dit, j'ai été envoyé pour le comportement. Subhanallah. Voilà, si on dit c'est secondaire, c'est pas important, le comportement, et ben en fait, on se trompe. Non seulement au niveau de la législation, on se sera trompé, le fait de mettre au deuxième niveau ou de le mettre de côté le comportement au niveau de la législation, mais également on se sera trompé par rapport à la réalité, comme on vous l'a expliqué en début de cours, la réalité de la communauté. Comment ça, tu me dis, on n'a pas besoin d'apprendre le comportement? Il y a une parole qui dit, même si elle ne vient pas des musulmans, elle a quand même un sens. On aura peur des musulmans lorsqu'il y en aura un qui parle et tout le monde l'écoutera. Wallahu a'lam, ce sont les juifs qui ont dit ça. On aura peur des musulmans lorsqu'il y en aura un qui parlera et tous les autres l'écouteront. Mais là, c'est le désordre. Tu vas faire un cours sur le tawhid, on va te dire oui, mais. Tu vas faire un cours sur le comportement, on va te dire oui, mais. Wallahi, nos grands savants, regardez sur Internet. Nos grands savants, ils font des rappels, ils parlent sur des questions religieuses, et vous verrez qu'il y a toujours des pouces mis, vous savez, quand on n'aime pas. J'ai pas aimé, j'aime pas. Subhanallah, c'est un héritier du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un héritier du prophète, tu dis j'aime pas, j'aime pas. Naham. Vous allez dans certains groupes de discussion et vous verrez, quelqu'un pose une question sur une question religieuse et vous verrez. Je pense que, oh, moi je pense que c'est haram. Non, moi je pense que c'est halal. De toute façon, je vois pas pourquoi ça sera haram. Oh, je vois pas pourquoi ça sera halal. Wallahu al-musta'an. La jamara, c'est la même chose. La jamara, c'est la même chose. Des divergences dans le firqa. Des divergences dans le fiqh, on en fait des égarements. Si quelqu'un il a divergé, il a pris une position dans la jurisprudence, parce qu'il y a une divergence. Si ça plaît pas à un certain groupe ou de gens de la sunna, ils vont dénigrer ce personnage, qui peut être un étudiant ou même un cheikh, min al-mashayikh, car ça a déjà eu lieu, on a déjà vu ça. Également. Si tu n'es pas avec le cheikh que nous nous validons, donc tu es contre nous. Tout ça, ce sont des déviances dans le comportement, dans la voie à suivre. Tout ça, c'est des déviances. Voilà pourquoi il y a priorité aujourd'hui, urgence également, hein, comme le tawhid, d'apprendre le comportement. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, une des choses qui fait que le comportement est très important à apprendre. Faut pas le négliger. Le shaitan, il va te faire croire que non, c'est pas une priorité, c'est une grande priorité. Parce que si chacun, à titre individuel, en aurait fait là une priorité, sachant que, tiens, le prophète, alayhi salam, il a été envoyé pour nous enseigner le comportement. Comme les compagnons du prophète, les grands imams, tous les gens qui ont brillé dans cette communauté et qui brillent, façon de parler, ils n'ont pas négligé ça, parce que eux, ils savent. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, lorsqu'il dit j'ai été envoyé pour parachever ou compléter les nobles caractères, il a donc le prophète, alayhi salatu wassalam, éclairci avec un style dans ce hadith particulier l'importance du comportement. Dans ce hadith que nous venons de vous citer, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a éclairci l'importance du comportement. Donc, comme le disent les savants, ce n'est pas la chose la plus importante avec laquelle le prophète a été pour laquelle le prophète a été envoyé. Comme on l'a dit hier, la chose la plus importante pour laquelle les messagers, les prophètes ont été envoyés, c'est le tawhid. Mais ça ne signifie pas, attention, ça ne signifie pas que le comportement n'est pas important. Le prophète a dit qu'il a été envoyé, un des buts pour lesquels il a été envoyé, c'est également le comportement. Et on constate que la communauté a délaissé ce comportement et c'est une des causes de sa déchéance. C'est une des causes de sa déchéance. Rassurez-vous, ça s'améliorera, inshallah ta'ala, comme cela a été éclairci dans les textes. Il y aura une amélioration. Il y a toujours des chutes dans l'histoire de la communauté. Vous verrez qu'il y a toujours eu des chutes, mais la grande chute, après une grande chute, une déchéance, il s'ensuit des jours meilleurs, où la communauté, elle remonte et elle redevient la communauté qui brille dans le monde entier et qui a le dessus. Naham, ça c'est dans les textes. Wallahu a'lam. Donc faut pas désespérer, faut patienter, mais faut pratiquer. C'est pas parce que tout le monde ne pratique pas que moi je ne pratique pas. Alors, un autre point. On a dit un des premiers points de l'importance du comportement. On a dit ce premier point, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les buts pour lesquels il a été envoyé, c'est le comportement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été certainement envoyé pour compléter les nobles caractères, les bons comportements. La deuxième chose, pourquoi le comportement est une priorité et qu'il est extrêmement important d'apprendre et de pratiquer le comportement. Deuxième chose. Les savants disent, lorsque une personne extérieure à l'islam est confrontée, ou alors elle rencontre un musulman, la première chose qui va apparaître devant cette personne qui est extérieure à l'islam, c'est le comportement de ce musulman. C'est la première chose qu'il apparaît chez le musulman. C'est son comportement. C'est la première chose qui est apparente et qui est mise en avant chez le musulman. C'est son comportement. Les êtres humains, entre eux, ils ne lisent pas dans les cœurs. On est bien d'accord. Donc quand les gens nous voient, ils nous rencontrent, la première chose lorsque les gens voient un musulman qui apparaît, c'est son comportement. Donc le comportement, c'est ce qui va créer chez la personne extérieure à l'islam ou une image positive ou une image négative. C'est la première chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste avec notre jahiliya. Chacun y vient avec les trucs de son quartier, négatif, hein, ou de son pays, négatif, pour dire que tout n'est pas négatif, hein, dans les quartiers et dans les pays. Mais si chacun y vient avec sa jahiliya, ses choses négatives, bah c'est la première chose qui va apparaître face aux gens extérieurs à l'islam. Et malheureusement, énormément de gens, même dans la Jamara, alors dans l'islam en général, mais nous on a dit qu'on parlerait beaucoup de la Jamara, les gens de la Sunna francophone. Les gens de la Sunna francophone, on en parlera beaucoup. Même dans la Jamaa, aujourd'hui, il y a des gens qui ont une apparence de musulmans, de gens pieux, comme vous le savez, hein, que ce soit pour la femme, le libas légiféré, que ce soit pour l'homme, la barbe, le camis, etc. Mais malheureusement, énormément parmi ces gens, ils n'ont pas le comportement. Ils ont gardé leurs caractéristiques de la jahiliya. La jahiliya, c'est l'époque de l'ignorance. Leurs défauts, leur mauvaise manière de parler, tout ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. La première chose que ceux qui sont extérieurs à l'islam vont voir, c'est non seulement l'habit de l'islam, mais accompagné du mauvais comportement. Donc forcément, ça donne quelle image? L'image négative. Je vais vous donner un exemple. Comme vous le savez, nous ici, il n'y a pas de mauvais jugement, on n'est pas là pour ça. Il n'y a pas de dénigrement, on n'est pas là pour ça. Mais il faut quand même donner des preuves du kitab ou as-sunna. Et il y a une autre forme de preuve qui est connue chez les ulama, qui s'appelle la preuve de la réalité. On tire des preuves de la réalité, c'est-à-dire notre réalité à nous de tous les jours. Moi, je vais vous donner une réalité. Et wallah, c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit. Je suis dans un quartier, un arrondissement, on va dire, parce que quartier, ça fait petit. C'est tout un arrondissement. C'est vraiment une grande, 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 grande ville où il n'y a que des musulmans. Du moins, on va dire 90% de musulmans. On va d'abord parler de l'extérieur. Lorsque vous allez dans les quartiers mécréants, etc., c'est propre. Il n'y a pas de fauda, des frigidaires, des plein de trucs qui sont entassés dans les rues. Tout le monde conduit correctement. La plupart, hein, ils conduisent correctement. Les kofars, hein, ils suivent le code, tout ça et tout. Je vous assure, c'est pas pour dénigrer. Hein. Le mécréant, il va entrer. Ça y est, je suis dans. Nous, on appelle ça le B9. C'est des arrondissements. B10, B9. Ce sont les arrondissements à Birmingham. Ça y est, je suis rentré. Il sait qu'il est dans le quartier musulman, rempli de mosquées, les snacks, halal, tout ça, les restaurants, les maktabas. C'est 100% tout musulman. La conduite, c'est catastrophique. La priorité n'est pas respectée. Les gens te doublent. Que des accidents. Que des accidents. Au point que c'est connu ici, Birmingham, les assurances, elles sont hors de prix, 2 500 pounds, ça fait à peu près 3 000 euros, un peu moins de 3 000 euros pour l'année. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 500 pounds, 3 000 pounds, 4 000 pounds pour un nouveau permis à l'année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des accidents. À cause de qui? Du mauvais comportement des musulmans. La propreté, on va dire ses limites. On va dire ses limites. Des papiers partout, partout, des frigos, les gens, ils vont dans un certain endroit et ils jettent tout, ils déposent tout là. C'est la fauda en fait. Alors c'est pas une critique, c'est pas un dénigrement, mais celui qui est extérieur. Il n'est pas musulman, il vient des quartiers là où c'est tout propre, là où c'est. Attention, c'est pas la fauda, chacun il a sa petite place de parking. Il n'y a pas, tu te lèves le matin et quelqu'un il t'a bloqué. Il s'est garé en double file, il t'a bloqué. Il te bloque, t'es obligé de klaxonner. Qui m'a bloqué? Je dois partir. Ça, c'est le quotidien. Wallahul musta'an. Celui qui vient de l'extérieur, il va dire quoi? Il va pas dire c'est les Jamaïcains, il va pas dire c'est les chrétiens, il va pas dire c'est les juifs. Il va dire oh là là, les quartiers musulmans, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors bien entendu, on n'est pas là en train de dire pour dénigrer les musulmans. Je pense que vous avez compris. On n'est pas là en train de dire, attention, on le verra dans l'étude d'un livre avec Cheikh Al-Uthaymeen, où Cheikh Al-Uthaymeen il dit, Attention, on n'a pas le droit de dire que les koufars sont mieux que les musulmans. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Parce que le pire des musulmans, il sera toujours mieux que le meilleur des koufars. Pourquoi? Parce que le meilleur des koufars, il peut avoir le comportement qu'il veut, il ne reconnaît pas Allah. Donc forcément, le pire des musulmans, il est mieux que le meilleur des koufars. Et Cheikh Al-Uthaymeen aussi nous explique que, attention, beaucoup les mécréants dans le commerce, dans beaucoup de choses, ils ont un bon comportement. Pourquoi? C'est pas pour le bon comportement lui-même. C'est parce que ils savent que le bon comportement, ça ramène de l'argent. Ça ramène de l'argent. C'est ce que dit Cheikh Al-Uthaymeen. C'est-à-dire, ça va les faire réussir. Donc eux, ils n'ont pas la niyya pour Allah d'avoir un bon comportement, tout ça. Vous voyez? Donc conclusion de cette analyse. Les savants disent la première chose que les mécréants, ils voient sur toi, la première chose au premier abord, c'est ton comportement. Si tu as un bon comportement, le résultat sera positif. L'image sera positive. Même si la personne, elle grogne, elle n'est pas contente, le résultat sera positif. On a eu l'exemple d'une personne, un élève à l'institut qui nous avait raconté, un élève de l'institut qui nous a raconté un récit. Il disait, une fois, je suis parti dans un supermarché, il y avait une dame du quartier, une mécréante. Tout le temps, elle me parlait mal, elle me regardait mal. J'ai toujours fait le bon comportement. Le frère, il disait, j'ai toujours, toujours fait le bon comportement avec elle. C'était une ennemie, hein, une adou, comme on dit. Il m'a dit un jour, il y a une dame avec un foulard qui vient me voir. Elle me dit, vous vous rappelez de moi, j'étais la dame qui vous parlait mal, limite insultée, hein, j'ai oublié les détails. Hein. Elle dit, par votre cause, je me suis converti. Subhanallah. Subhanallah. Est-ce que vous comprenez l'impact du bon comportement? Wallahi, le comportement, on va le voir à la suite. Ça peut faire entrer au paradis comme ça peut faire entrer en enfer. Alors, on nous dit, on nous donne un exemple ici. On nous dit, regardez certains pays dans l'histoire de l'islam. On nous cite des pays d'Asie comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, ce genre de pays. On nous dit ces pays ne se sont pas convertis par l'éloquence des prêcheurs. Ils ne se sont pas convertis par l'épée. Mais ils se sont convertis par le comportement des commerçants et leur noble caractère. Alors on nous dit le bon comportement et les nobles caractères des gens des péninsules arabiques qui à l'époque faisaient du commerce avec eux. Lorsqu'ils ont vu qu'ils respectaient le dépôt que les musulmans, ces pays-là d'Asie, qui n'étaient pas encore musulmans, lorsqu'ils ont vu que les commerçants musulmans, ils respectaient le dépôt, ils étaient justes et ils étaient ils étaient pardonneurs entre eux. Ça a été la cause qui les a attirés vers l'islam. Aujourd'hui, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Hein. Aujourd'hui, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Pour vous dire on n'est plus comme ça. Il y a beaucoup de gens qui arnaquent. Tu vas dans certains pays musulmans, aujourd'hui, ils sont connus pour les arnaques. Faut dire la vérité, on n'est pas là pour se mentir, hein. Vous allez voir qu'à l'Institut Tawhid, on n'est pas là pour dire que du. Pour passer que de la pommade et dire ce que les gens veulent entendre. Je pense même que ce que les étudiants veulent entendre, c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, dans la plupart de certains pays musulmans, avant d'y aller, on te dit attention, ils arnaquent là-bas. Wallahi, je me renseignais sur un pays récemment. Je me renseignais sur un pays récemment. Et on me disait attention, attention, il y a des fausses arnaques à la résidence, à l'Iqama. L'Iqama, c'est la résidence. Toi, tu vas te présenter pour acheter une résidence qui va te coûter 5 000, 7 000, 10 000 euros. Et on te dit attention sur les réseaux et autres, il y aura une fausse société qui va s'avancer comme société. Pour te faire l'Iqama, la résidence, pour obtenir la carte de résidence dans le pays musulman, c'est une arnaque. Moi-même au Yémen, à l'époque, il y a 20 ans de ça, on m'a arnaqué. Pour vous dire. Certains pays, d'autres pays, bon, l'Iqama, la résidence, c'est juste un exemple, hein. Acheter une maison, tu vas payer, on va t'arnaquer. Le Maghreb, c'est pareil, ils sont connus pour l'arnaque. Alors excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais il y a certains pays au Maghreb, ils sont connus pour ça. Tu vas aller, tu vas pour. Je connais des frères convertis qui se sont fait arnaquer. Même pas convertis ou pas convertis. Nous-mêmes, dans ces pays-là, on s'est fait arnaquer. Ils ont la réputation de Al-Khada'a. Al-Khada'a, c'est tromper les gens. Les faux terrains. Le terrain il va te vendre un terrain qui lui appartient pas. Peut-être il va te vendre une voiture. Bon là, je grossis, j'en rajoute, hein. Elle n'a pas de moteur. Donc, aujourd'hui, malheureusement, c'était pour vous donner l'image. L'image d'avant, des compagnons, des commerçants, etc. Qui avait le comportement et les gens entraient dans l'islam. Mais aujourd'hui, on ne dit pas que c'est tout le monde, que c'est dans l'absolu, hein. Il y a des gens qui vont dans les pays musulmans et quand ils voient la générosité et tout, il y en a beaucoup, hein, qui sont partis dans certains pays, ils se sont convertis. Mais nous, on parle de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on va dans certains pays, ça donne envie de se convertir? Ou ça donne envie. Quand on voit le comportement, est-ce que ça donne envie? En règle générale, on dira que non. Quand tu arrives, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour ceux qui sont un petit peu sceptiques, qui se disent non. Il y a des pays, hein. Tu arrives juste à la douane. Moi, je vous le dis par connaissance, hein. Je vous le dis, c'est pas on m'a raconté. Je l'ai vécu pendant plus de 5 ans. Juste tu arrives à la douane, tu as envie de repartir. J'ai vu une fois une personne au consulat en train de faire des papiers. Ils l'ont tellement rendu fou qu'il a déchiré les papiers. Il a dit je n'irai pas au bled, j'y vais pas. J'étais choqué, il était à côté de moi. Il a dit j'y vais pas. Il a déchiré le papier. Le papier, c'est un numéro, hein. Le numéro où tu vas passer, il l'a déchiré, il a dit j'y vais pas. C'est pas grave, j'y vais pas. Et il est parti. Tellement leur comportement dans les administrations, ils parlent mal, très mauvais comportement. La douane. Bah c'est simple, hein. Moi, la dernière fois que je suis arrivé à une douane. C'est une douane en voiture, hein, où tu prends le bateau, tu arrives à la douane. Le douanier est arrivé. Il m'a dit, Boulahia, ou tu payes ou je te fais tout descendre. Le douanier m'a dit, El Barbu, ou tu payes, ça veut dire tu donnes, comment on appelle ça, Rishwa, Rishwa, c'est le, comment on dit en français, la peau de vin. Où tu donnes le pot de vin, où je te fais descendre et sortir tout ce que tu as dans ta voiture. Vous savez ce qui s'est passé? Je lui ai dit, attends-moi, je reviens. Attends-moi, je reviens. Je suis parti voir un gradé douanier. Je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? J'ai mon cousin qui est le chef de toute la douane. Comme vous le savez, je l'ai jamais fait intervenir. Je ne suis pas comme ça. Même des fois, tout le monde passait devant moi et je n'ai rien dit. J'ai jamais joué avec cette faveur. Il m'a dit, oui, je me rappelle de toi. Tu es le cousin du chef des douanes. Je lui ai dit, écoute, en bas, il y a un douanier. Il m'a traité de barbu. C'est une insulte. Au bled, la manière qu'on te dit ça, barbu, c'est péjoratif. Cheikh Lazhar, Sinikra, il a fait une fatwa sur ça, que c'est péjoratif de dire à quelqu'un El barbu, El boulahia, c'est péjoratif. Je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, il m'a traité de boulahia, et il m'a demandé de tout faire descendre sous moi, en échange de. Il m'a dit ah bon? Il est venu avec moi, il a disputé le douanier, il lui a dit t'as pas intérêt à recommencer. Et le douanier m'a regardé, il m'a dit, mais je plaisantais, Achi, je plaisantais. Et je lui dis, je te smarre, c'est pas grave, Maalish. Maalish, c'est pas grave. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas musulman, qui vient d'arriver, qui connaît pas, on lui fait des coups comme ça? On lui fait un coup comme ça. Il va dire quoi? Je reviendrai plus jamais dans ce pays. Donc voilà, c'est pas pour vous, pour dramatiser, mais c'est pour vous donner des exemples. On doit être exemplaire. Toi, tu es un agent, par exemple, de douane. Tu es un agent qui représente le pays, qui représente le comportement. C'est la première chose. La personne qui va arriver dans ton pays, la première personne qu'elle va voir, c'est toi. Le premier comportement qu'elle va voir, c'est toi. Sois accueillant, soit montre le bon comportement. Également dans les mosquées, je vous ai déjà raconté le récit. On vous a déjà raconté le récit dans une mosquée où une dame voulait se convertir. Elle est partie dans la mosquée, soi-disant des gens qui se disent des gens de la Sunna, mais en réalité qui ne le sont pas. Et toutes les sœurs étaient là. Mais pourquoi t'habiller comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Elle n'était même pas encore convertie, elle est venue pour se convertir. Ils l'ont, comment dirais-je, tombée dessus. Ouais, pourquoi t'es habillée comme ça? Elle avait mis un foulard vite fait, mais elle n'est même pas encore convertie. Ils lui sont tombés dessus, elle est partie chez les chiites. Depuis quand les gens de la Sunna envoient les gens qui viennent vers eux, ils les laissent partir chez les chiites ou les khawarij? Ou autre. Ça, c'est dû à quoi? Barakallahu fiikum. Je vous raconte tous ces récits hein, pour arriver à une conclusion. Quelle est la conclusion? Tout ça, c'est dû à quoi? Au mauvais comportement. Au mauvais comportement. Donc, conclusion, et on va terminer ce cours aujourd'hui sur ça. C'est que voilà pourquoi, une des causes, pourquoi on doit impérativement, en urgence, apprendre le bon comportement pour être des vrais ambassadeurs de l'islam. Wallahi, la plupart de ceux qui s'avancent en tant qu'ambassadeurs de l'islam, ils ont tout faux. Ils ne sont pas des ambassadeurs, ils sont des saboteurs de l'islam. Énormément de gens aujourd'hui qui s'avancent comme des ambassadeurs de l'islam sont des saboteurs de l'islam. C'est une réalité. Vous voulez que je vous donne un autre exemple? Alors les exemples, on en a à la pelle. Une fois, il y avait des frères, deux groupes de frères, qui étaient rivaux. Non, nous on est pour ça, non, on n'est pas d'accord avec vous, ils ont commencé à se battre. Des frères, hein? Quand je vous dis des frères, des frères. Wallah alem, je crois que c'était à Marseille. Bon, c'est pas important de dire où ou pas où. Les frères sont battus. Est-ce que vous savez que ce sont les gens qui sont sortis d'un bar qui les ont séparés? Wallahul musta'an. Les gens qui sont censés être égarés, qui sortent du bar, c'est eux qui séparent les frères. Des histoires, j'en ai à l'appel pour vous dire que on n'est pas en train de polémiquer ici. On est en train de vous dire que est-ce que c'est vrai ou pas? Vous êtes déjà parti? Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous êtes déjà parti, comment ça s'appelle, dans une conférence, dans une mosquée, grande conférence. Est-ce que vous êtes déjà parti dans une grande conférence? Et où le prêcheur ou l'imam ou le savant, il prend le micro et il dit, s'il vous plaît, les voitures sont mal garées, les gens ne peuvent pas passer, la rue est bloquée. Quelqu'un s'est garé devant le bureau de je ne sais quoi, de la poste. Ils ne peuvent pas se entrer, les gens. Et tous ces gens-là, là, ils vont dire, ah, ce sont les étudiants, les gens qui sont venus à la conférence, qui ont bloqué. Ce sont les musulmans. Des exemples, il y en a à l'appel. À l'appel. Donc, on vous a fait un petit constat comme ça de la communauté. C'est vraiment en résumé. C'est pour vous faire confiance. Je pense que vous savez déjà toutes ces choses-là. Mais c'est pour vous faire prendre conscience de l'urgence d'apprendre. En vérité, l'urgence, on doit tout recommencer. On doit tout recommencer. On doit faire une cure de désintoxication du comportement. Et le problème, pourquoi on doit mettre le paquet dans le comportement? Une des causes, vous voulez que je vous dise pourquoi? Retenez bien ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La ya'ti alaykum az-zaman illa wa ba'dahu asharra minhu. Il n'y aura pas une époque sans que celle qui suive, elle sera pire. Les savants ont expliqué, ça veut dire que on parle des gens là. Les gens qui viendront à la suite, les gens ils seront de pire en pire. Alors quand tu sais ça, accroche-toi au comportement, apprends le comportement, parce que ça va être de pire en pire. Vous savez bien, dans les signes de la fin des temps, le meurtre va se propager, ma communauté, il y a des gens de ma communauté qui vont retomber dans le polythéisme, ils vont suivre les kuffars, même s'ils entraient dans un trou, ils les suivront dans un trou, pas à pas. Pas à pas. Ça, c'est dans un hadith du prophète, alayhi salam. Ça va être de pire en pire. Donc nous, ce qu'on doit faire, si on est vigilant, il faut que tu t'éduques maintenant. Il faut que tu apprennes le comportement maintenant. Qui va apprendre à tes enfants? Qui va apprendre à ton entourage? Aujourd'hui, il y a un porte-à-faux. C'est quoi ce porte-à-faux? Eh bien, c'est que les gens, ils reproduisent ce qu'il y a autour d'eux. Donc nos enfants, ils vont reproduire. Ils vont reproduire. Et barakallahu fikoum, vous savez que il y a une sorte d'imposture. Lorsqu'on dit c'est pas grave, je vais les mettre à l'école musulmane. D'accord? À l'école musulmane, en théorie, ils vont apprendre, c'est vrai, l'islam. Voir le comportement, entre guillemets. Mais dans la pratique, ceux qui ont des enfants dans des écoles musulmanes. Moi, j'avais des enfants dans mes écoles, dans les écoles musulmanes. Je vous assure. Mes enfants, il y a des choses qu'ils n'ont jamais connues. Ils ont grandi dans les pays musulmans. Quand on a fait une halte en France une fois, je les ai mis dans une école musulmane. Ils ont appris des choses avec les enfants de France que ils connaissaient pas, mes enfants. Ils connaissent pas les quartiers, ils connaissent pas tout ça. Yémen, mes enfants, ils ont connu Yémen, Algérie, dans des écoles où, alhamdoulillah, il y a de l'éducation, il y a un minimum. Ils connaissent pas ces choses-là de. Alors toi, tu crois que tu vas mettre tes enfants à l'école musulmane Mais c'est quoi l'école musulmane? C'est. Crois pas que c'est l'école des compagnons, hein. Wallah al-musta'an. Il y avait même des enfants à l'école musulmane, dans l'école musulmane, qui vendent de la drogue. Des enfants, petits frères, petites sœurs, quand je dis petits, c'est majeur, hein, qui se fréquentent. Alors toi, t'es content, tu dis non, je vais les mettre à l'école musulmane. Conclusion, n'attends pas après les autres pour éduquer tes enfants. C'est toi qui vas les éduquer, tes enfants. Donc pour les éduquer, comme le disent les savants, tu ne peux pas. C'est une règle hein, chez les savants de la Sunna, en arabe on dit Faqid al-shay la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le transmettre. Hein. Donc si tu n'apprends pas le comportement, tu ne connais pas le véritable comportement dans l'islam, tu vas leur apprendre quoi à tes enfants? Tu vas leur apprendre quoi? Voilà une des causes pourquoi on doit apprendre le comportement pour rectifier la communauté. Si chacun, à titre individuel, il se dit, moi, je vais apprendre et je vais pratiquer, il va essayer de propager. Inch'Allah ta'ala, ça pourra être un bienfait. Également, ça sera un bienfait pour toi, pour tous ceux qui sont autour de toi. Et walhamdulillah, on ne dira pas que le comportement, il a disparu dans la communauté. S'il y a des gens qui apprennent et qui pratiquent, on ne pourra pas dire, oh, comme j'ai entendu récemment, comme nous avons entendu récemment, aujourd'hui, la majorité des gens ne pratiquent pas. C'est une vérité, mais s'il y a des gens qui pratiquent, on ne pourra pas dire personne ne pratique. On pourra dire la majorité ne pratique pas. Donc il faudra toujours des gens qui apprennent et qui pratiquent pour pas qu'on arrive au seuil, au stade de dire aujourd'hui plus personne pratique. Parce que là, ça sera grave. Wallahu a'lam, on va se contenter aujourd'hui dans notre cours de cela. Dans le prochain cours de comportement, on entrera plus. Là, c'était vraiment pour vous faire comprendre, avec des exemples, l'importance du comportement. Dans le cours prochain, on entrera plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire les versets, les paroles du prophète, les paroles des compagnons, les paroles de nos imams concernant l'importance du comportement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah ta'ala, sanaktafi bihadha al-qadr. On dira qu'on se contentera de cela pour aujourd'hui. Naam. Non, il n'y a pas de questions dans le groupe des frères. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.